Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. SOS Méditerranée exhorte les autorités françaises à trouver un port d'accueil pour son navire de secours en mer. L'Ocean Viking tourne depuis maintenant 18 jours en Méditerranée avec 234 rescapés à son bord. SOS Racisme et plusieurs autres organisations comme le MRAP et la Ligue des Droits de l'Homme appellent à manifester contre le racisme et les idées d'extrême droite. Dimanche prochain, rassemblement à 15h, place de la République à Paris. Retour dans votre édition sur la visite officielle du pape François à Bahreïn, visite de 4 jours entre jeudi et dimanche dernier, visite consacrée au dialogue avec l'islam. Nous y reviendrons avec le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Gollnisch. Au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux vagues de chaleur durant l'été dernier, c'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé. Alors comment protéger les populations? Nous écouterons François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional. Il était l'invité de Pluriel hier soir. Et l'invité de rencontre était le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, émission consacrée à l'occasion de la création mondiale de sa symphonie pour trompette et orchestre avec l'Orchestre National de France, jeudi à 20h à la Maison de la Radio. Nous écouterons Ibrahim Malouf. L'Italie doit respecter ses engagements européens et laisser débarquer l'Ocean Viking sur ses terres. Une demande du porte-parole du gouvernement français. 234 rescapés restent bloqués à bord du navire de SOS Méditerranée. Olivier Véran estime que l'attitude actuelle du gouvernement italien et le refus de laisser accoster ce bateau à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées est inacceptable. SOS Racisme et plusieurs autres organisations comme la Ligue des Droits de l'Homme ou le MRAP appellent à manifester contre le racisme et les idées d'extrême droite. Dimanche prochain, ce sera à Place de la République à Paris, un rassemblement à 15h. Une initiative, écrit SOS Racisme, pour que chaque homme, chaque femme et chaque enfant puisse se considérer et être considéré avec toute la dignité qui leur est due. Cela après qu'un député RN a interrompu par ces mots qu'il retourne en Afrique, le député LFI Carlos Martins Bilongo, qui exprimait lors d'une séance à l'Assemblée nationale le drame des migrants traversant la Méditerranée. Retour à présent sur la visite officielle du pape François à Bahreïn, une visite de 4 jours entre jeudi et dimanche dernier, déplacement consacré en particulier au dialogue avec l'islam. Sur cette visite, entretien avec le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Gollnisch.
C'est vrai que c'est une visite historique, car c'est la première dans ce royaume. Mais ce qui est historique également, c'est la continuité des rencontres du pape François avec des responsables musulmans dans des royaumes à majorité musulmane, dans des pays à majorité musulmane. Et je rappelle que le pape François est allé en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Israël, en Irak, où il a fait un voyage tout à fait remarquable, à Abu Dhabi, en Turquie, en Arménie, à Bahreïn. Donc il connaît bien quand même toute cette région du Moyen-Orient. Il n'y a que 2 pays où il n'est pas encore allé, le Liban et la Syrie. Et en particulier le Liban, il a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait s'y rendre, mais le Liban n'a pas de président, n'a pas de gouvernement, le pape est un chef d'État, ça lui est difficile d'y aller dans ces conditions. Donc ce voyage à Bahreïn est à la fois important parce que c'est le premier dans ce royaume, mais il est également important parce qu'il souligne une continuité, je dirais que la persévérance du pape François, sa ténacité à nourrir ces rencontres, à nourrir ce dialogue et à œuvrer pour la paix est tout à fait impressionnant.
Vous évoquez le regard du pape François sur la situation au Liban, un regard très attentif. Le pape François qui s'est d'ailleurs exprimé sur la situation de ce pays lors de son retour au Vatican.
Oui, en effet, d'abord parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui travaillent dans les pays du Golfe. Vous savez, il y a un peu 2 diasporas libanaises. Il y en a une dans les pays qu'on peut appeler occidentaux et une autre dans les pays du Golfe. Donc il y avait beaucoup de fidèles libanais aux liturgies qu'il a pu célébrer durant son voyage. Et il a appelé avec force les responsables politiques à dépasser la question de leurs intérêts personnels pour mettre en œuvre des décisions, une politique qui soit au service de la population. C'est évidemment ce qu'attend la population libanaise, mais c'est particulièrement affligeant de voir que ce pays qui est en très grande difficulté, est incapable de se doter d'autorités publiques pour précisément qu'on puisse aider le Liban. Mais comment aider le Liban sans gouvernement, sans président?
Le pontificat du pape François est très fortement marqué par l'intensité de ce dialogue islamo-chrétien. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'évolution de ce dialogue, de cette relation au cours des années de ce pontificat?
Oui, là aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire. Hein. Je vous rappelle le texte presque initiateur de Vatican II sur les relations entre chrétiens et musulmans. Et à partir de là, tout le travail qui a été fait par ce qu'on appelle le secrétariat pour les relations avec les non-chrétiens. Donc il y a eu toute une histoire, tout un travail formidable, et on ne peut pas non plus ne pas oublier la rencontre du pape Jean-Paul au Maroc, du pape Jean-Paul II au Maroc, qui a été aussi quelque chose de très fort, de sa rencontre avec la jeunesse marocaine. Vous voyez, il y a une histoire qui sous-tend cette magnifique rencontre. Alors, le pape François souhaite vraiment pouvoir apporter les pierres qu'il peut apporter à ce dialogue. Cela s'est noué notamment avec le recteur de l'université d'Al-Azhar en Égypte, qu'il a retrouvé d'ailleurs à Bahreïn, mais aussi avec les musulmans chiites, dans la rencontre avec l'ayatollah al-Sistani quand il est allé en Irak. Donc on voit vraiment qu'il y a cet engagement du pape qui parfois n'est pas compris, il faut qu'on soit clair. Hein. Certains pensent que dans ses discours, dans ses voyages, dans sa déclaration, dans ses déclarations, comme par exemple la déclaration d'Abu Dhabi, eh bien, d'une certaine manière, il ignore les difficultés, et il oublie les difficultés des chrétiens dans des sociétés à majorité musulmane, il oublie l'islamisme violent, etc. Tout ça est ridicule. Bien sûr, le pape François n'oublie rien, mais son devoir comme pape, comme chrétien et comme pape, c'est vraiment de regarder les chemins qui peuvent s'ouvrir. Et durant ce voyage, il a été beaucoup question de l'eau. Vous savez, il y a le désert, et donc l'eau est une valeur extraordinaire. Il y a des sources au milieu des déserts où l'eau jaillit comme une source de vie. Eh bien, le pape est un guetteur qui regarde les sources de vie pour précisément faire du chemin avec les uns et les autres. Et je pense que cette persévérance porte des fruits. On voit bien que, par exemple, quand il est allé en Irak, il y avait un avant et un après. Ses voyages à Abu Dhabi puis à Bahreïn, il y aura un avant et un après. N'oublions pas qu'il est venu célébrer dans la cathédrale à Bahreïn, qui vient d'être achevée, qui est une immense église qui a plusieurs milliers de places. Eh bien, voici quelque chose de positif. Donc, je suis parfois navré de voir des gens qui pensent être les seuls à voir les choses négatives mais qui ne proposent pas les chemins par lesquels ces choses négatives peuvent être surmontées. Le pape, il surmonte ces choses négatives pour essayer de construire. Il est parfaitement conscient, ça s'est révélé à plusieurs reprises dans son voyage, hein, des tensions qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Il l'a dit, les tensions Est-Ouest et les tensions Nord-Sud, les difficultés mondiales. Et il a fait ce voyage dans un moment particulièrement grave sur la paix dans le monde. Et bien sûr, le pape François, comme ses prédécesseurs récents, se veut un pèlerin de la paix, il l'a dit à plusieurs reprises.
C'est un voyage qui s'est déroulé juste avant l'ouverture de la conférence sur le climat, la COP27, le pape François qui est très attentif à cette problématique.
Absolument, donc il a fait des textes, des encycliques sur ce thème, et il met tout à fait en avant le fait que dans le respect de la nature, les droits de la terre en quelque sorte, que nous ne pouvons pas manipuler à notre guise sans conséquences graves, fait partie d'un tout, ce qu'il appelle l'écologie intégrale, quand il évoque la défense de la vie, de la conception à la fin de vie. C'est tout un peu le même mouvement qui est finalement un mouvement profondément humaniste, non pas d'un humaniste qui viendrait de quelques réflexions athées, mais qui est un humaniste profondément issu de sa foi, des valeurs de l'Évangile, et qu'il peut ainsi partager avec d'autres. Parler avec des musulmans, c'est aussi s'interroger mutuellement sur ce que nous disons de la personne humaine. Il a parlé de l'éducation, de la promotion de la femme. Tout ça, ça participe finalement d'une vision humaniste extrêmement cohérente et cohérente avec l'Évangile.
Le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Golnisch. L'épidémie de choléra au Liban, un avion en provenance d'Égypte avec à son bord 17 tonnes de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Beyrouth. Le choléra qui est réapparu également en Syrie voisine fin septembre dernier. Le droit à la santé fait partie intégrante du système des droits de l'homme. L'État doit le garantir à tous les citoyens, des mots du président tunisien. Kais Saied s'est ainsi exprimé lors d'une rencontre avec le ministre tunisien de la Santé, Ali Mbret, au palais de Carthage. Il est revenu sur l'importance de la question des médicaments et la nécessité de les rendre disponibles. L'invité de Pluriel hier soir était François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional, conseiller municipal de Dravel. L'OMS a révélé que les canicules de cet été ont fait au moins 15 000 morts en Europe. La rénovation thermique des bâtiments pourrait-elle contribuer à protéger davantage les populations lors des prochains pics de chaleur? Extrait de cette émission.
Alors, c'est une adaptation complète de notre modèle et de notre société qu'il va falloir mener. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de la rénovation thermique permet d'abaisser la chaleur au moment des pics de chaleur, mais cette question doit être posée plus largement sur la question de l'accès à la nature et sur la question des îlots de chaleur dans les villes. Et d'ailleurs, il serait intéressant de pousser au-delà la question du nombre de morts en regardant la sociologie et en caractérisant les zones de vie de chacun des cas exceptionnels qu'on voit par ces décès du fait d'une forte chaleur. Mais ça serait intéressant de pousser l'étude sur ces pics de chaleur et sur la causalité des décès.
Vous avez une idée derrière la tête quand vous dites qu'il faudrait étudier davantage ces cas?
Oui, clairement aujourd'hui on voit dans la catégorie sociale, vous avez des gens qui sont plus pauvres, qui sont plus soumis à la question de conditions de logement qui ne sont pas adaptées à résister à des pics de chaleur. Aujourd'hui, on voit clairement que la rénovation thermique se fait plus dans les milieux CSP+, que dans les milieux populaires. Et toute cette question, notamment de ce qu'on a appelé pendant très longtemps et ce que mes parents, grands-parents appelaient les cages à lapins, c'est-à-dire tous ces logements qui avaient des grille-pains à l'intérieur, des chauffages électriques à l'intérieur et qui n'étaient pas du tout isolés. Et on se rend bien compte qu'en période de canicule, vous avez des températures qui augmentent fortement et en période de froid, et ils ne sont pas isolés, donc vous consommez beaucoup plus d'électricité. C'est un coût qui est absolument conséquent pour les foyers. Je rappelle, parce que c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, une facture électrique, c'est une consommation multipliée par un prix unitaire. Si votre prix unitaire augmente, il faut baisser la consommation. Et pour baisser la consommation, il faut isoler le logement.
François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional. Il est l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com. Emmanuel Macron présente aujourd'hui à Toulon la nouvelle revue nationale stratégique de la France. Le président français devrait acter la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel, alors que 3000 militaires français sont toujours déployés au Tchad, au Niger et au Burkina Faso. Il s'agira désormais, selon l'Élysée, de réduire l'exposition et la visibilité des forces françaises. L'invité de rencontre était le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf. Une émission réalisée à l'occasion de la création mondiale de sa symphonie pour trompette et orchestre avec l'Orchestre National de France. Jeudi prochain, à 20h, à la Maison de la Radio, Ibrahim Malouf.
Il y a quelques mois, lorsque l'Orchestre National de France m'a recontacté. C'était suite à ma participation au concert du 14 juillet au Champ de Mars, où j'avais joué la Marseillaise devant, je ne sais pas si vous vous rappelez, 5 millions de personnes, et puis la télévision, etc. Donc c'était assez fou. Ils sont revenus me voir, ils m'ont dit « Mais ce serait sympa qu'on fasse quelque chose avec toi. » Je dis « Ben, avec grand plaisir. » Et là, je repense à cette symphonie. Et entre-temps, dans ces 20 ans qui sont passés, j'avais écrit d'autres symphonies. J'avais écrit une pièce qui s'appelle « Point 33 », qui est une énorme pièce symphonique aussi, avec chœur, avec chorale, avec orchestre symphonique. On avait fait ça avec l'ensemble orchestral de Paris, qui maintenant s'appelle l'Orchestre de Chambre de Paris. J'avais écrit une autre pièce qui s'appelle « La Levantine symphonique », que j'avais créée à Washington, qui avait été une commande de la New Levant Initiative. Bref, j'avais déjà réécrit des choses. Je me suis dit « C'est le moment de reprendre cette symphonie qui était inachevée, et de l'achever, et de la terminer. » Et je me suis relancé dans l'écriture et dans la finalisation de cette symphonie.
Et donc, cette symphonie pour trompette et orchestre, c'est à la fois une œuvre de jeunesse et une œuvre, je dirais, de votre maturité.
Oui, et j'ai laissé, du coup, les petites folies de jeunesse dedans. Je ne les ai pas corrigées. Il y a des choses dans mon écriture qui ne sont pas injouables, mais qui sont... Plein de je sais pas, il y a quelque chose d'un peu furieux dedans. Je sais, quand on est jeune, on est toujours un peu comme l'adolescence, quoi. On râle un peu, on est toujours un peu furieux, on n'est pas content, on se trouve moche, etc. Donc j'ai gardé un peu cette fragilité là, la folie qu'il y a dans cette jeunesse là, et j'y ai aussi ajouté plus de maturité à d'autres endroits. Et j'ai laissé un peu l'écriture comme elle était. J'avais pas envie de me trahir. J'avais envie de dialoguer avec mon passé. Vous savez ces vidéos qu'on trouve parfois sur Internet où on voit quelqu'un qui s'était enregistré lui-même ou elle-même il y a 20 ou 30 ans en posant des questions, et elle se répond elle-même à ses propres questions. C'est des vidéos assez intéressantes et très intenses d'ailleurs. Et ben, cette symphonie, c'est un peu ça.
Alors, le Ibrahim Malouf de la maturité, comment il juge ce jeune Ibrahim tempétueux qui osait des choses un peu difficiles?
Il y avait une forme d'inconscience. Enfin, la jeunesse, quand on rêve, on se sent invincible, on se sent plus fort que tout, on pense qu'on va conquérir le monde. Il y a cette énorme confiance et en même temps cette énorme vulnérabilité, parce qu'on sait qu'en fait on n'a rien fait et qu'on vaut peut-être rien. Donc cette vulnérabilité là, je me suis autorisé à la laisser dans la pièce, parce que c'est je pense ce qui donne aussi sa sincérité à cette démarche. Si j'avais tout corrigé, ça y est, c'est plus la symphonie que j'ai écrite à l'époque, c'est ce que j'écris aujourd'hui. Moi, j'avais envie que ce soit un vrai dialogue entre moi et ma conscience. Vous savez, souvent la conscience, la réponse qu'on a, les réponses qu'on a aux questions existentielles, elles ne peuvent nous arriver qu'à travers le temps. C'est impossible de répondre à certaines questions quand on a 20 ou 25 ans. C'est même pas possible d'imaginer d'essayer d'y répondre. Ce serait même plutôt impossible, enfin, il y a quelque chose même de malsain d'essayer de répondre à des questions alors qu'on n'a même pas cette expérience-là. Et quand on arrive à un certain âge, à 40, 50, etc., on a ces réponses parce qu'on a expérimenté des choses, parce qu'on a vécu, en fait.
Le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, il était l'invité de Rencontre, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Ella Kribi Romdan, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Génération, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.